Bienvenue dans Archi Différemment, une série de podcasts qui part à la rencontre de parcours singuliers d'architectes et explore le lien entre formation universitaire et pratiques actuelles des métiers. Je suis Clotilde Béroux et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Christine Dalnocchi. Bonne écoute. Je suis ravie de te recevoir. On est dans la bibliothèque de l'IMVT, donc l'Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires, qui regroupe l'École d'architecture de Marseille, l'Institut d'aménagement régional et l'annexe du paysage, de l'École du paysage, pardon, à Versailles. Mmh. Donc Christine, tu es paysagiste.
Oui, bonjour et merci de m'accueillir. Et effectivement, je suis paysagiste.
Et donc tu es venue il y a 2 semaines, je crois, en amphithéâtre, évoquer ton parcours. Et donc dans cet institut où nous sont regroupées ces 3 disciplines, urbanisme, architecture et paysage, tu nous as parlé de ta formation et du fait qu'à l'UP4, il n'y avait peut-être pas de diplôme de paysagiste, ou alors ce n'était pas aussi clair, il n'y avait pas d'école. Est-ce qu'on peut en parler ?
Alors, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 70, donc j'ai commencé par étudier l'architecture, effectivement, à Paris, à UP4. À l'époque, il n'y avait pas d'école du paysage, ou plus, parce qu'il y avait eu. Ça a fermé en 68, ça n'avait pas encore ouvert. Et donc, j'ai entamé une formation d'architecte, on va dire, très traditionnelle, à UP4. Je rappelle, pour la petite histoire, que nous devions être 6 ou 7 filles sur un peu plus d'une centaine d'étudiants. Donc les choses ont bien changé. Et donc j'ai étudié l'urbanisme, enfin tout ça. Et puis j'étais pas très satisfaite. Et puis j'ai entendu que l'école du paysage rouvrait. L'attrait de la nouveauté m'a entraînée donc à Versailles. Il y avait un concours d'entrée que j'ai passé, que j'ai réussi. Et je me suis dit, je vais aller voir, et puis je verrai bien de toute façon. Et je n'avais pas terminé mes études d'archi, mais je me suis dit, rien ne m'empêchera de les terminer après, ou de revenir vite si ça ne me plaît pas. Et tout d'un coup, je suis arrivée dans une école qui était en train de s'inventer, qui bouillonnait beaucoup, où il y avait des gens d'une énergie absolument incroyable, dont Michel Corajou, qui était jeune,
qui enseignait déjà.
Et qui nous a emportés finalement dans ses projets, dans ses histoires et dans ses paysages. Et je ne suis jamais retournée à l'école d'architecture, sauf très longtemps après, pour y enseigner le projet de paysage.
Oui. Et pourquoi elle avait fermé cette école de paysage ?
Alors, je ne sais pas trop, c'était des histoires liées à mai 68. Et après, il y a eu des choses administratives un peu compliquées. C'était une émanation de l'école d'horticulture. Il a fallu séparer, remonter une école, etc. Donc, moi, je suis arrivée dans une école toute jeune, vraiment qui s'inventait. On était 12 d'étudiants par année.
Pour 2 ou 3 ans?
C'était 4 ans d'études. Moi, je suis allée à la génération des DPLG, donc c'est 3 cycles de 2 ans avant la transformation. Donc nous, c'était des études de 6 ans. Il fallait avoir fait 2 ans d'études avant de présenter le concours et rester 4 ans faire l'école du paysage. Et donc, cette école était vraiment en train de s'inventer. On était très peu nombreux. C'était très mal organisé. On a un peu forgé l'école à notre manière finalement. L'envie de faire des projets, l'envie de parler du paysage, de s'intéresser à l'interaction entre les objets de la ville finalement, plus qu'à la ville elle-même. Tout ça dans le domaine de Versailles avec un espèce de champ historique très prégnant, puisque l'école était est toujours celle de Versailles, dans le domaine du parc du château, là où les choses se sont inventées. Et Versailles est une ville née d'un parc. Versailles est le miroir d'un parc. Donc tout ça mettait plein de choses comme ça en collision. Et ça a été passionnant.
Et donc c'est Michel Courageau qui faisait partie des donc qui est paysagiste, que j'ai appris juste avant dans notre entretien qu'il a été honorifique, que c'était ensuite sa femme en fait, Claire Courageau, qui avait
bah, Michel était pas vraiment, enfin avait fait les arts déco et il avait inventé un peu son, enfin je vais pas faire sa biographie, c'est pas officiel, mais il avait rejoint la UA de Paul Siemetoff, il travaillait avec Simon et ils ont un peu inventé finalement ce métier en l'important dans la ville, dans les quartiers, dans la banlieue, dans la réflexion sur le tissu urbain, sur la manière de vivre ensemble, dans la pratique publique en fait. Mmh. Parce que les années 70, les grands ensembles étaient un peu terminés, tout le monde était à peu près logé, etc. Mais on se demandait un peu comment vivre bien comme ça, tous ensemble, dans des lieux un peu plus harmonieux. Et
du coup, il y a comme a priori, tu n'étais pas la seule qui sortait d'études d'architecture. Vous aviez quand même une pratique ou une vision un peu formée à la ville, à la grande échelle. Et dans ce que tu nous as amené en amphithéâtre, c'était des cartes. Et tu nous as parlé en fait de cette thématique de la géographie à la géométrie.
Oui, parce que quand on a été formé à l'architecture, on a beaucoup dessiné, beaucoup appris la géométrie, beaucoup tracé, beaucoup organisé des horizontales, des verticales, des angles et des choses. Et puis on arrive dans le paysage où tout d'un coup s'organisent aussi des choses que personne n'a dessinées, qui sont des phénomènes naturels qui sont les formes géographiques du territoire, et tout d'un coup on se trouve démunis et on repart un peu à zéro, parce qu'on a souvent l'impression que faire un projet c'est un peu toujours la même chose, mais on change de point de vue sur le monde complètement, et donc il faut se retrouver des outils et des manières de comprendre comment on va pouvoir agir et modifier des choses sur ce territoire. Donc il faut l'observer autrement, il faut observer la ville autrement et changer totalement de point de vue. Alors c'est vrai que la première chose quand on s'interroge au territoire, moi il m'a semblé naturel de me plonger dans les cartes et dans la cartographie. Mmh. Et c'est un monde aussi tout à fait passionnant, parce qu'à chaque carte est aussi une vision du monde et un regard particulier sur le monde. Donc ça a été une chose. La deuxième chose, ça a été que, puisqu'on parle d'il y a très longtemps, de la fin des années 70 et du début des années 80, on recevait les premières images de la Terre vues des satellites. C'était à l'époque le satellite Spot. Et donc, ça donnait aussi une vision des formes de nature qu'on n'avait pas vraiment jusqu'à présent de la même manière.
Tu nous as amené à ce propos des photos aériennes de Georges Gestard, donc photographe et journaliste suisse, précurseur des vues du ciel. Et effectivement, on découvre ces paysages qui sont très géométriques, alignés, qui s'insèrent au sein d'aspérités topographiques. Il reprenait des ruines aussi archéologiques et il disait... Je trouvais intéressant, et ce qui va corroborer avec ce que tu nous dis, c'est la hauteur permet d'avoir une vue d'ensemble, et une vue d'ensemble facilite la compréhension, tandis que la compréhension génère une réflexion, peut-être.
Ouais. Alors, c'est vrai que Georges Gestard a été aussi un photographe qui a été important pour les étudiants de ma génération, puisqu'il nous a montré des visions de la Terre à la fois très, très belles, qu'il a rangé un peu par catégorie. Donc, entre autres, quand il a fait Le pain et le sel, son livre qui s'appelle Le pain et le sel, il nous a montré le travail des agriculteurs. Et les agriculteurs ont, d'une certaine manière, enfin, même clairement, aménagé le territoire, mais sans le dessiner, mais avec le projet d'y travailler, d'exploiter la terre, de la rendre fertile et d'être confortablement installé finalement dans le paysage pour pouvoir travailler au mieux. Et tout d'un coup, on comprend que nous sommes capables de géométrie et que ces géométries révèlent les géographies et donnent une vision aussi et une compréhension du territoire qui va nous permettre finalement de trouver peut-être des clés pour agir dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, la confrontation de la géométrie qui nous rassure et de la géographie qui nous inquiète un peu fait qu'en essayant de l'articuler, on va comprendre aussi où le paysagiste va peut-être pouvoir se mettre pour faire ses projets.
Et alors, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais ensuite qu'on parle des jardins. Mais j'avais quand même juste quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est toi qui m'as montré la référence il y a bien des années maintenant, c'est le ciel de Descartes et cette représentation de ce philosophe, limite poète. Donc ça, c'est issu des Météores, un recueil qu'il a écrit. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Alors, c'est vrai que quand on fait des projets, on a besoin de trouver des images qui vont être un peu le support de nos idées. Et toujours dans ma passion de la cartographie et des cartes, j'avais trouvé ces images, des représentations du ciel faites par Descartes, qui s'appellent les tourbillons de Descartes, qui était sa manière de concevoir la façon dont les planètes fonctionnaient les unes par rapport aux autres en tourbillonnant, en générant des forces qui les stabilisaient d'une certaine manière les unes par rapport aux autres. Alors, on ne va pas rentrer dans les histoires scientifiques, je sais que ce n'était pas du tout juste et que maintenant on pense les choses tout à fait différemment, mais ça a fabriqué des représentations du ciel absolument merveilleuses. Et tout d'un coup, souvent, on peut avoir envie aussi de voir la Terre comme un reflet du ciel ou comme un lieu où le ciel, à certains moments, peut se projeter. Et tout d'un coup, on peut être utilisé comme ça une image quelque part pour la projeter sur le sol et en faire un jardin.
Et c'est dans ce qui est dans ce que c'est les analyses en fait qui ont été faites de ce texte. Il y a une journaliste, Géraldine Mosna-Savoy, qui dans une chronique philosophique dit que c'est une manière de rendre compréhensible le merveilleux des éclairs et des arcs-en-ciel sans en perdre le charme. Et cette manière effectivement de voir ce vortex, ces comètes, je vous invite à aller voir. Ce fameux ciel de Descartes nous amène à se promener dans un jardin et tu fais partie des rares personnes qui sont allées à la Villa Médicis et qui ont eu un prix de Rome et qui ont eu l'occasion en fait d'apprendre à regarder ce que tu nous disais.
Oui, alors l'expérience de la Villa Médicis pour moi a été assez fondatrice parce que pendant longtemps j'ai travaillé chez les autres, entre autres, et pour les autres, entre autres Michel Corajou qui après avoir été mon prof a été mon patron et avec qui j'ai beaucoup appris parce qu'on travaillait en grande proximité et c'était tout à fait passionnant. Mais à un moment, on a besoin aussi de se demander un peu à quoi on pense tout seul et ce vers quoi on veut aller. Et c'est vrai que ce temps comme ça de la Villa Médicis a été assez merveilleux pour ça. J'étais assez fière aussi d'y être allée parce que bien sûr, il n'y avait pas de place pour les paysagistes à l'époque. Et donc, j'ai pris la place d'un architecte. Donc, c'était un petit clin d'œil, qui n'a pas été pour me déplaire. Et c'est vrai que vivre, tout d'un coup, avoir le privilège de vivre dans cette villa au-dessus de Rome, dans ce jardin magnifique, et de se dire pendant quelques années, c'est chez moi. Et c'est un truc absolument extraordinaire. Et en plus, ces jardins de la Renaissance italienne sont des jardins où sont nés les jardins français, où est né Versailles d'une certaine manière. Donc c'était une sorte de boucle comme ça qui se faisait. Je me trouvais à la source. Et quand on vit à la Villa Médicis, c'est une grande plateforme finalement érigée au-dessus de Rome. J'ai compris plusieurs choses. J'ai compris d'abord que celui qui a érigé ce jardin a dépensé toute son énergie pour ériger ses plateformes, ses terrasses, pour dominer la ville et s'approprier le paysage autour. Et tout d'un coup, j'ai compris dans ces jardins là-bas de la Renaissance que l'art du terrassement était l'art premier du paysagiste. et qu'on s'encombrait beaucoup la vue des jardins en regardant des statues, des fontaines, des trucs, etc. Mais qu'en préalable à tout ça, il y avait d'abord un terrassement magnifique et que justement ce terrassement, au moment à la Renaissance où le jardin, la conception du jardin s'attache à l'architecture, puisqu'avant le jardin et l'architecture étaient généralement dissociés, là c'était un ensemble, un tout. Et que pour faire une architecture, il faut d'abord faire un terrain horizontal pour ériger la verticale. J'ai compris ça aussi, que finalement l'essentiel de mon travail serait ça, d'amener l'horizontal nécessaire à la ville dans un territoire qui n'est pas forcément. Donc ça, c'était une grande leçon. J'ai beaucoup regardé tous ces jardins. J'ai aussi physiquement, alors c'est très bizarre, ça fait un peu perché, mais c'est le cas de le dire. C'est une ville, Rome, dans laquelle, dans mes pieds presque, j'ai ressenti l'épaisseur du temps, l'épaisseur de la ville. Parce que la Villa Médicis est construite sur un mur romain.
Oui.
Y a la ville est faite de tout un tas de strates. Et j'ai compris que finalement, l'art du paysage aussi, c'était un art lié au temps. Et que le temps du paysage n'était pas celui de l'architecture.
Là, tu nous parlais de la Villa d'Este. Avant aussi, avec dans le fait de mettre l'homme à l'horizontale dans cette série de murs à soutènement et de choses
voilà,
comme ça.
Voilà, parce que quand on visite par exemple la Villa d'Este, qui est une de ces grandes villas du Latium, enfin de la campagne romaine, on visite toujours l'intérieur du jardin, on comprend qu'il y a toute une succession de terrasses, de choses comme ça. On ne fait jamais visiter l'extérieur, qui est en fait un grand ouvrage de terrassement avec des ouvrages voûtés très très importants qui tiennent le jardin pour justement fabriquer cet enchevêtrement et cette succession de terrasses qui vont de la campagne au palais. Et sur lequel on a fait couler de l'eau, finalement, en captant en haut une rivière qu'on a détournée. Donc de l'eau qui jaillit, qui surgit, qui fait toutes les fontaines un peu violentes, pour descendre uniquement par gravité sur l'ensemble du jardin et finir par s'apaiser tout en bas dans un miroir parfaitement calme. Et c'est assez émouvant de voir ça, parce que c'est aussi la naissance de Versailles qui est là. Ouais. Donc, voilà.
Et alors, peut-être que le parallèle est tiré par les cheveux, mais donc dans cette manière de mettre l'homme à l'horizontale, donc dans cette manière de venir, bah pour le coup, on parle de l'eau. Donc, tu nous dis que le paysage va venir travailler le sol, l'horizontale. Et par exemple, à Saragosse, donc l'ensemble de ton parc, c'était justement de pouvoir accueillir les fluctuations, les eaux en trop et les crues. Donc là, c'est pas de l'eau qui est maîtrisée, mais c'est l'eau qu'on a. Enfin,
c'est un peu toutes les formes de l'eau, puisque le paysagiste, son grand sujet, c'est tout de même l'aléa et le rapport à la nature, qui est un rapport assez violent, qui s'est souvent traité, enfin toujours traité dans une sorte de rapport de force en opposant à la nature des murs, des digues, etc. Pour se défendre finalement. Et le parc de Saragosse est un parc inondable qui est en amont de la ville et qui est au bord de l'Èbre, qui est un fleuve avec des inondations assez violentes, même très violentes. Et le parc en fait partie du métabolisme de la ville et est destiné à protéger la ville des crues. Mais pas dans un ouvrage offensif, mais au contraire dans un ouvrage protecteur, mais accueillant aussi, donc qui devient un parc. Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est que donc, c'est un parc inondable, dans lequel l'eau circule. Comme les agriculteurs qui occupaient le terrain avant la faisaient circuler pour irriguer leurs champs, qui est protégé aussi par un système de digues, qui est aussi le système de digues mis empiriquement en place par les gens qui travaillaient le sol ici. Donc on a réutilisé finalement toutes les traces et les tracés des ouvrages qui empiriquement ont été établis par ceux qui ont travaillé le sol.
Ça, c'est le parc, tu l'as où il a été, donc ça fait partie de tes grands travaux de paysagiste. Il a été ouvert, il a eu des prix, il a été inauguré quand?
Alors, c'est un parc et c'est un grand projet physiquement parce que c'est un parc qui fait 125 hectares, donc c'est un ouvrage important. Et c'est un parc qui a ouvert en 2008 pour l'exposition internationale de Saragosse, dont le thème était l'eau et le développement durable. Et ce parc était d'une certaine manière le cadeau de l'expo à la ville.
Oui, puisqu'en fait, il doit...
Le parc reste, et les pavillons d'exposition n'étaient pas dans le parc, ils étaient en bordure du parc.
Et tu nous racontais justement que ce parc a été inondé.
Et bien sûr, comme souvent, donc, on travaille avec des tableaux de référence qui nous donnent les crues qui surviennent, qui sont classées en crues régulières, annuelles, décennales, etc. Et nous avons eu, bien sûr, l'année du chantier avant l'ouverture, la crue du siècle. La crue du siècle peut arriver chaque année.
Surtout en ce moment. Donc c'est un parc qui accueille. Donc en fait, tu as quand même une longue liste de travaux et de parcs et de jardins et à ton actif. Je voulais qu'on parle si tu peux peut-être nous parler de ta pratique et peut-être aussi juste de... Tu as beaucoup voyagé, tu nous as parlé en fait des peuples nomades et de la disparition des traces, puisqu'en fait on est sur l'eau, le rapport au sol, la manière d'accueillir, et finalement tu as rencontré des peuples qui n'avaient pas ce rapport-là. Et qu'il y avait un rapport un peu plus mental.
J'ai toujours aimé voyager avec mes projets, sachant que mes projets, par contre, sont toujours des projets sur le commun, sur l'espace public. C'est un vrai engagement que j'ai toujours eu de travailler pour notre cadre de vie, finalement. Et donc, j'ai toujours aimé voyager avec mes projets parce que c'est la suite de l'école, finalement. Et on apprend beaucoup de l'autre quand il est ailleurs, finalement. Mais là où j'ai été le plus désarçonnée, finalement, c'est quand, par une succession de hasards, je me suis trouvée en Mongolie à faire une étude... pour rendre un site, on va dire, fertile et le remettre un peu en vie, parce que dans la ville d'Oulan-Bator, il y a des problèmes de pollution extrêmement violents liés au chauffage au charbon, d'une part des yourtes et d'autre part de la ville, par des anciennes centrales de l'Union soviétique. C'est irrespirable, on le sent immédiatement quand on arrive dans la ville. Donc, la végétation ne pousse plus, on faisait une étude là-dessus. Et ce site était un site comme ça, très beau. Mais c'est un site qui était sous la responsabilité d'une chamane. Et donc, avant qu'on démarre l'étude, le maire de la ville nous a demandé d'aller consulter la chamane pour savoir si, effectivement, on pouvait travailler sur ce site. Et donc l'étude a commencé comme ça, en passant une journée chez une femme avec qui on a invoqué les esprits, bu des mélanges d'herbes et de vodka, etc. Et en fait, c'était assez impressionnant. En fait, on ne savait pas trop, on était à mi-chemin entre la curiosité et puis une espèce d'appréhension de trucs un peu bizarres. Le lendemain matin, on s'est levé à 5 heures avec mon associé pour aller tourner autour d'un mausolée de pierre et faire brûler des petites herbes que cette femme nous avait données. Et après, elle a envoyé un mail au responsable de la ville qui disait qu'on pouvait travailler sur le site. Donc on a travaillé. Mais c'est très désarçonnant de travailler avec des gens de la culture nomade, puisque nous travaillons... Moi, j'ai l'habitude de travailler sur les traces, les tracés, la mémoire du sol.
L'intelligence des gens qui l'ont cultivé
comme
aussi.
Comme ça, mmh. Et de travailler avec des gens qui ne cultivent pas le sol. Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de culture, et ça ne les intéresse pas, et qui n'ont pas d'attache au patrimoine matériel. Mmh. Et tout d'un coup, ça nous remet en pensée comme ça, et qui ont un rapport au ciel extrêmement puissant. Le ciel est présent tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans leurs paroles, dans leurs gestes, dans leur gestuelle même. Ils ont ils sont comme ça tout le temps.
Le paysage est au-dessus.
Et leur rapport au paysage est vraiment, pour ça, merveilleux. Et ça a été des grands doutes et une immense leçon pour essayer de capter aussi cet aspect du projet de paysage qui est lié à l'impalpable, à la lumière, à la brume, au vent. Etc.
Bah, du coup, ça nous ramène à Descartes, au phénomène aérien sublunaire, comme il le décrit.
Ouais.
Est-ce que tu... Bon, en fait, je me sens un peu frustrée parce que j'ai envie tellement de te faire raconter tous tes projets que je trouve absolument fantastiques. Et il nous reste 2 minutes. est-ce que tu aurais un conseil, un livre ou un projet que tu aimes particulièrement parce qu'il t'a amené quelque chose de très fort justement dans cette idée de commun?
Dans mes projets?
Ouais.
Ou en général. Ouais. Moi, ma formation, c'est Versailles. C'est la ville où j'ai étudié. Et je crois que le nôtre, pour nous, reste vraiment le patron. Et qu'il ne faut pas oublier non plus que notre travail se fonde dans toute une histoire, dans tout un... qu'on transforme, qu'on fait évoluer, etc. Parce que je crois qu'actuellement, il y a une sorte de risque, parce qu'avec tous les bouleversements climatiques, il y a un bruit assourdissant autour des questions de paysage, une espèce d'urgence partout. Tout le monde veut planter des arbres n'importe où, n'importe comment, verdir, etc. Je suis d'accord, hein. Il faut le faire, bien sûr qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas non plus oublier le territoire dans lequel nous sommes et faire des projets qui tombent du ciel. Les projets de paysage, ça monte depuis la profondeur du sol. Donc, balancer des projets comme ça, comme il se fait dans beaucoup de... Enfin, je pense à Paris, par exemple, où tout d'un coup, il pleut des arbres et on décide que c'est une forêt parce que je ne sais pas quoi. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et donc, je pense qu'il faut rester ancré aussi, prendre le temps de réfléchir aussi, voilà, à l'endroit... Où l'on est.
Et où l'on va.
Et à notre histoire et à notre culture pour ne pas perdre tous nos moyens. Et aussi, parce que c'est bien la nature en ville. On balance le mot de nature en ville et tout d'un coup, on fait un morceau de forêt. Mais ce n'est pas pour rien qu'on avait inventé le jardin non plus. Et je pense qu'il faut peut-être retourner au jardin parce que le jardin, ça filtre. C'est le filtre entre la nature et la ville. C'est ce qui rend la nature habitable, acceptable,
rassurante,
c'est ce qui nous protège. Et tout d'un coup, de mettre en ville des arbres avec des trucs qui poussent dessous et puis plus jamais s'en occuper parce qu'on n'a pas de fric pour l'entretenir et on dit bah non, mais c'est la nature, c'est une forêt, ça va forcément pas aller.
Bon, ouais.
Et donc voilà. Bon. Mais le vrai sujet aussi maintenant, qui n'est pas du tout romantique, mais qui est très pragmatique, c'est qui va payer pour ça? Puisque le fond de notre problème, c'est que globalement, quand on regarde bien, quand il y a projet de paysage, c'est qu'à côté, il y a projet de construction, d'architecture, et que malheureusement, souvent, c'est le béton qui paye le paysage. Donc voilà, là, il y a un vrai sujet.
Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode avec Christine Dalnocchi. Merci pour votre écoute.